Bonjour et shalom à tous et bien sûr ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission Découverte. Alors, ce qu'il y a au menu aujourd'hui, eh bien sachez que la plus vieille Bible du monde va être exposée en Israël. Je vous parlerai de la 68e marche de Jérusalem. Vous le savez peut-être, mais chaque année, Jérusalem s'anime de couleurs, de musique et de diversité culturelle à l'occasion de la marche de Jérusalem. Moment que l'on pourrait qualifier d'historique, en effet, la prière de Soukhot s'est déroulée avec le ministre des Télécommunications, Oussa, eh bien, en Arabie Saoudite. Une série jeunesse israélienne sur la Shoah nommée au Hemi Award, la série soulève des questions de mémoire, d'identité, ainsi que la place qu'occupe le passé national et individuel dans le présent israélien. Direction la Nouvelle-Calédonie, en effet la synagogue de Nouméa, phare de la communauté juive dans le Pacifique. Et cette année, pas de synagogue pour célébrer la fête de Kippour, je vous expliquerai pourquoi. Et la photo du jour, c'était la petite et belle souka à la Maison Blanche, donc aux États-Unis. Sachez également que le conseiller du roi du Maroc, M. André Azoulay, a été décoré par le président de l'État d'Israël, M. Herzog. Et enfin, 80 ans plus tard, les œuvres d'art restituées aux héritiers, retirées de prestigieux musées, cette œuvre d'art avait été volée à un collectionneur juif assassiné par les nazis. Ces œuvres, principalement des dessins d'Egon Schiele, avaient été volées par les nazis à un homme juif déporté à Dachau, où il est mort en 1941. Et voilà, il est temps maintenant de retrouver notre invité, Dan Sobovitch. Bonjour.
Bonjour, Oliva.
Alors, Dan Sobovitch est jeune, il a 41 ans, il est israélien, dynamique, je peux vous le dire, et très investi dans le soutien à la démocratie israélienne, mais pas que. En effet, il est le fondateur d'un mouvement qui s'appelle Democrisis, qui appelle à un rassemblement ce mercredi 11 octobre, place du Luxembourg à Bruxelles, suivi d'une conférence au Parlement européen. Alors, avant d'aller plus loin, chers auditeurs, petite mise au point. Radio Judaïka ne prend nullement position, ni pour un parti, ni pour l'autre. Nous relatons seulement des faits. Alors, Dan Sobovitch, je vous demanderai tout d'abord, pour nos auditeurs, de vous présenter.
Alors, merci pour l'invitation. C'est ma première fois ici à la Radio Judaïka.
Et pas la dernière, on espère.
Et ça tombe bien que vous ne preniez pas une position partisane, parce que Democrisis non plus. Nous, on n'est pas là pour soutenir un parti ou un autre. Nous, on est là pour défendre des valeurs démocratiques à travers l'Europe et dans son environnement. Et donc, merci pour avoir mentionné l'événement de 11 octobre. Je commencerai peut-être par dire que la conférence au Parlement européen est déjà... l'inscription est déjà fermée.
Clôturée
parce qu'on avait déjà rempli la salle. Par contre, 16h45, place de Luxembourg, juste en face, on fera une grande manifestation avec des leaders européens et peut-être le plus important, avec des leaders de...
d'Hongrie et de Pologne.
Pas seulement de la Hongrie et de la Pologne, mais de la société civile et des militants de la démocratie, des droits de femmes, des droits LGBT, de la séparation des pouvoirs, qui viennent exprès pour cet événement important depuis Israël, depuis la Hongrie, depuis la Pologne, y compris des noms importants comme la chanteuse Noah, comme Michael Mogg, dont je viens de vous raconter l'anecdote, qui est la petite fille de Shimon Peres, comme Dr. Maya Sion de Mahon Mitvim en Israël. Donc, on sera assez...
Mais on va en reparler un peu plus tard. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que, un petit explicatif, l'érosion démocratique dans plusieurs pays d'Europe et de son voisinage a donc amené la société civile et les décideurs politiques de différents pays à unir leurs forces et à agir ensemble pour défendre les valeurs, les principes et les institutions démocratiques. Le 11 octobre, donc, vous venez de le rappeler, se tiendra cette réunion au Parlement européen pour présenter Democrisis, un nouveau réseau de la société civile pour soutenir la démocratie au-delà des frontières. Et cet événement aura lieu dans le contexte d'une crise constitutionnelle en Israël, d'un recul démocratique en Hongrie et quelques jours avant les élections nationales cruciales en Pologne. Alors, Dan, je vous demanderai un petit mot d'explication sur voilà ce qui se passe en Israël, pourquoi ça s'est passé, et sur la réforme judiciaire, parce que je pense que les gens ne comprennent pas toujours. Et autre question, pourquoi intégrer précisément la Hongrie et la Pologne dans cette manifestation?
D'accord, donc commençons par Israël.
Oui.
Pour ceux qui ne comprennent pas. Donc en Israël, on n'a pas la chance d'autres pays démocratiques d'avoir une constitution qui défend certains principes de base. On n'a pas la chance, ça se trouve, on n'a pas le système fédéral. On n'a pas de contre-pouvoirs au gouvernement qui existent dans d'autres pays. Par exemple, ici en Belgique, il y a le pouvoir est déjà fédéré, il y a une constitution, il y a la loi européenne qui précède sur la loi belge, il y a des cours européennes. Autrement dit, il y a beaucoup de contre-pouvoirs pour un gouvernement. C'est-à-dire que si un gouvernement maintenant se fait élire, un gouvernement ne peut pas décider tout ce qu'il veut parce qu'il y aurait d'autres pouvoirs qui diraient
qui stoppe.
Stop, monsieur le Premier ministre, l'équipe de gouvernement, vous pouvez pas faire ça et ça parce que c'est pas démocratique. Ça ne suffit pas d'être élu démocratiquement. On sait par l'histoire du XXe siècle qu'on peut être élu démocratiquement et après passer des lois qui sont très très pas démocratiques. Alors, pour des raisons différentes historiques, en Israël, le seul contre-pouvoir du gouvernement qui existe, c'est le système judiciaire, c'est la Cour suprême. C'est la seule institution qui peut dire ce que vous faites. La loi qui passe maintenant n'est pas, on dirait, constitutionnelle, même si officiellement on ne l'a pas, mais cette loi ne peut pas passer. Historiquement, c'était notre seul contre-pouvoir. La Cour utilise cette droit d'une façon très très mesurée et sensible, sachant que si le peuple a fait élire un gouvernement, ils ont droit de prendre l'initiative et passer des lois, et c'est dans des cas où vraiment ça passe trop loin que la Cour doit s'intervenir. Ce qui se passe maintenant, c'est que le gouvernement actuel, qui n'est pas seulement le plus à droite qu'on a vu dans l'histoire, c'est un gouvernement de... Par exemple, le ministre des Affaires intérieures, c'est quelqu'un qui même l'armée n'a pas recruté parce qu'il avait trop d'historique de délits.
Mais on peut être à droite et démocratique.
Voilà, mais là on parle des gens qui sont des criminels en fait, des voyous, des gens qui ont déjà des records, des incitations à la haine, etc. Donc ça c'est le genre de ministre qu'on a, donc ça c'est en parenthèse, et en même temps... Pas seulement qu'ils essayent de passer des lois qu'on trouve très très dangereuses contre toute la minorité possible, mais en même temps ils essayent d'affaiblir le système judiciaire en Israël, faire en sorte que, et il contrôle le juge, ou il contrôle qui sera juge, et il casse les droits même de la Cour de s'intervenir en disant « nous, le peuple, on a choisi, donc vous n'avez pas droit », et l'incitation contre la Cour. Donc tout ce mélange ensemble fait en sorte que si jamais ce genre de loi passe maintenant, à partir de maintenant, on sera dans une situation où un gouvernement peut faire tout ce qu'il veut. Si demain il décide que les gens avec les yeux bruns n'ont pas droit de manger un sandwich le mardi, il n'y a aucun pouvoir, évidemment c'est un exemple bête et méchant, mais il n'y a aucun pouvoir qui peut dire non, vous n'avez pas droit de faire ça. C'est fini. Et dans ces cas-là, selon tous les experts du monde, Israël ne sera plus considéré comme un pays démocratique. Et donc c'est pour ça que c'est aussi grave que ça. Je me permets, vous m'avez dit, quand on s'est vu il y a quelques jours, vous m'avez dit, moi je suis né avant la guerre, et pour moi Israël, si je sois d'accord avec leur politique ou pas, pour moi, c'est mon assurance de vie. Ça m'a beaucoup touché cette phrase. Et moi, je veux parler à vos auditeurs, tous ceux qui considèrent comme vous qu'Israël, c'est leur assurance de vie. Méfiez-vous maintenant, parce que votre assurance de vie est en péril. Parce que si jamais Israël n'est plus démocratique, demain, si jamais vous avez un problème dans votre pays de résidence, votre pays de citoyenneté, si Israël n'est plus démocratique, moi, je sais pas à votre place si j'irai. Aujourd'hui, oui, ça pourrait être votre pays de rêve ou faire votre alia, etc. Mais le jour où c'est plus démocratique, croyez-moi, ça serait plus votre assurance de vie. Alors, la deuxième question sur la Hongrie et la Pologne ou...
Oui,
vous voulez...
Non, je vous en prie, continuez sur la lancée, puisqu'il va y avoir des élections en Pologne.
Tout à fait. Donc, en fait, ce qui se passe en Israël, c'est qu'on s'est rendu très compte très vite que Netanyahu était en contact et a une relation très chaleureuse avec les leaders politiques de la Hongrie et de la Pologne. Il partage beaucoup de valeurs antidémocratiques, mais c'est pas seulement ça. Le gouvernement Netanyahu apprend de leurs méthodes et de leurs pratiques. Et donc là, on se dit, si eux, ils se parlent de façon aussi étroite, s'ils partagent ce qu'on appelle les playbooks de comment faire, comment détruire une démocratie, et l'état de la Hongrie aujourd'hui est déjà très grave, c'est plus une démocratie selon les standards internationaux, bah, c'est aussi à nous, les gens qui essaient de sauver nos pays, de se parler. Et pour moi, il y a deux raisons principales de parler avec nos sœurs et frères en Pologne et en Hongrie qui se battent pour la démocratie. La première, c'est la solidarité. Il y a un sentiment de solitude. Qui est très important pour ces gens qui passent des mois et des mois à se battre, qui arrêtent leur vie, qui arrêtent tout ce qu'ils font pour se battre, juste qu'ils entendent que le monde le voit, l'écoute, qui sont pas tout seuls et qui sont des bons côtés de l'histoire. Moi, j'avais des frissons quand j'ai vu des vidéos qui venaient de la Pologne après la marche vers Jérusalem par des manifestants en Israël, par des Polonais qui disent « Vous êtes nos confrères et qu'on sort dans cette bataille pour des valeurs. » Et moi, je veux bien qu'on fasse pareil pour eux. Quand nous, les Israéliens, disent « Vous, les Polonais qui vous battez pour votre pays, on est avec vous, c'est la même bataille. » Donc, si je peux me permettre une dernière phrase. En fait, on voit que le populisme nationaliste traverse des frontières. C'est pas seulement que Netanyahu parle avec Orban.
Il y a une contagion, il y en a plus.
Absolument, c'est une pandémie globale. C'est Covid, si vous voulez. Quand Trump gagne aux États-Unis, on voit que le populiste en Europe, ça le renforce. En fait, donc il faut arrêter de parler de ce qui se passe en Israël ou en Pologne ou en Hongrie comme un cas particulier. Et surtout quand des politiciens ici me disent, mais c'est pas à nous à nous interdire, c'est une affaire locale, c'est russe, j'entends ça aussi parfois par la communauté juive. Et là, je dis non. C'est un effet global qui nous concerne tous, et pas seulement dans ces trois pays, parce que même dans d'autres pays, ici en Belgique, en France, en Allemagne, etc., même si ces forces ne sont pas encore au pouvoir, ils sont en train de gagner plus en plus de popularité.
Oui, comme en France, on va voir aux élections.
Exactement. Donc si on regarde ce qui se passe dans ces trois pays, pour moi, c'est un signe d'alerte. C'est le feu rouge pour nous dire attention, parce que ça risque d'être notre cas aussi. Et c'est pour ça qu'il faut cette solidarité internationale par des gens qui sont pro-démocrates. Et c'est pour ça que j'appelle à notre manifestation, pas seulement des Hongrois et des Israéliens et des Polonais et des Juifs, etc. J'appelle à tous ceux qui tiennent pour ces valeurs, par solidarité ou par inquiétude pour leur propre pays, parce qu'aujourd'hui c'est nous, demain c'est vous.
Précisément, Dan, ces dernières années, le monde a appris qu'aucune démocratie n'est à l'abri de menaces internes, vous venez de l'expliquer. Les instances internationales ont coutume de dire qu'Israël est la seule démocratie du Proche-Orient. Israël pourrait-il perdre ce précieux label à votre avis? Et puis tout ce qui se passe en Israël pourrait fragiliser les communautés juives, la diaspora?
D'abord, je précise que pour moi, Israël, dans les frontières des 67, est la seule démocratie en Moyen-Orient. Ce qui se passe en Cisjordanie, sous pouvoir militaire israélien, c'est pas démocratique. Mais ce qui se passe dans les frontières, ce qu'on appelle la ligne verte en Israël, c'est pas une démocratie parfaite, mais ça reste une démocratie et c'est peut-être la seule démocratie au Moyen-Orient. Et justement, c'est la seule démocratie qui risque d'être la dernière et disparaître. Parce que si cette soi-disant réforme passe, Israël sera plus considéré, pas par moi, Dan Sobovitz, par des grands experts internationaux, par toutes les institutions qui mesurent l'état de démocratie, considérant qu'Israël ne sera plus un état démocratique. Donc oui, le risque maintenant, c'est comme vous dites, c'est une guerre civile en Israël, c'est des tensions. C'est une guerre entre des juifs ou des citoyens différents en Israël. Et évidemment, ça radie aussi vers des communautés juives à l'étranger. On voit ici en Belgique que tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet et c'est très, très clivant. Certains qui disent c'est pas à nous à s'intervenir, etc. Mais surtout ce qui a dit le président de CCLJ, Benjamin Beckmans, au ministre Chikli quand il était là à Bruxelles. C'est nous, on a une communauté sioniste qui a des liens étroits et importants avec Israël. On voit notre jeunesse là-bas, etc. Mais ce que vous faites maintenant, votre gouvernement, monsieur le ministre, vous coupez nos relations avec Israël. Parce que nous, on est aussi une communauté humaniste, ouverte d'esprit, progressiste, et ça nous met en difficulté. Donc vous parlez d'une guerre des Juifs, et moi je parle aussi de la diaspora juive, que demain, je ne sais pas quel sera leur lien avec Israël, si jamais Israël s'arrête d'être un
pays
démocratique.
Parce qu'on a déjà assez d'ennemis à l'extérieur, alors c'est dommage déjà d'alimenter.
Ouais, et c'est le seul pays démocratique au Moyen-Orient, c'est aussi le seul pays juif, on n'a pas un deuxième. On n'a pas où aller. L'Argentine, l'Ouganda, c'est fini. Donc, on n'a qu'un seul et c'est le seul à sauver.
Dan, merci de bien vouloir nous en dire plus sur vous et des raisons de votre investissement politique sur ce qui se passe en Israël. Et on vient de le dire, qui risque de déboucher si l'on n'y prend pas garde sur une guerre des Juifs. Alors, comment et quand a démarré toute cette histoire et surtout Democrisis? Est-ce que c'est un jeu de mots avec démocratie, Democrisis? Et autre question, est-ce que votre mouvement pourrait-il s'apparenter à un lobby?
Ouf, c'est beaucoup de questions.
Beaucoup de questions, mais...
Je commence par la facile. Donc là, vous allez rire parce qu'après ce que je dis sur la Cisjordanie et que je considère pas du tout démocratique, alors je suis moi-même issu d'une yeshiva en Cisjordanie, une colonie juive là-bas.
Kibbutz.
Pas du tout à Kibbutz. Kibbutz, c'est plutôt à gauche. Hein.
Oui,
moi,
oui,
je pars d'une colonie assez à droite. Mais ça fait là une dizaine d'années que je suis en Belgique pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe la politique en Israël. Je suis venu pour des raisons professionnelles. Je fais une carrière dans les institutions européennes. J'étais conseiller à un vice-président de la commission sur sa communication. Donc, j'y vivais ma petite vie anonyme, privée, et je vivais ma vie parfois.
Et maintenant, vous êtes en pleine lumière.
Bon, c'est pas une énorme lumière, mais je me trouve un peu plus. Non, à vrai dire, je modère des conférences ici et je fais des modérations des studios, mais pas sur ces sujets en fait. Donc, j'étais juste mes clients, des institutions internationales, etc. Les moments où je me suis dit que c'est à moi maintenant d'arrêter ma vie et je vois presque pas mon mari et mes enfants à ce jour à cause de cet engagement, c'est début de cette année qu'on a compris, après les élections il faut dire, parce que le gouvernement Netanyahu n'a pas annoncé ses plans avant les élections, mais juste après début de l'année, il y avait les grands discours de Yariv Levin, le ministre de la Justice, qui nous a expliqué ce qu'ils avaient en tête et comme beaucoup en Israël et à travers le monde. J'étais tellement perturbé, tellement angoissé, je dormais pas la nuit. Je voyais la fin. Je voyais une civilisation qui est en train de se noyer. Je me suis dit, c'est la fin de tout ce qu'on connaît. Et, excusez-moi, contrairement à ce qui s'est passé en Hongrie et en Pologne, la méthode ressemble. Mais en fait, la vitesse. Là-bas, en Europe, c'était le système qu'on appelle salami. C'est très, très doucement. On essaie de faire dormir les gens parce que, ou les fatiguer. Ce qu'ils ont essayé de faire en Israël, c'est le contraire. Ça allait tellement vite que l'opposition ou les manifestants n'arrivent même pas à réagir. Et donc, d'un seul coup, on découvre qu'en fait, qu'on a un gouvernement avec, bon, un conflit d'intérêts d'un premier ministre qui essaie de s'échapper de la justice, etc., qui fait une coalition avec les forces les plus extrêmes qui existent dans la société israélienne et qui essaie de juste détruire la démocratie de l'intérieur. Au départ, c'était, en fait, j'écris dans un groupe Facebook des Israéliens à Bruxelles, je disais, bon, vous savez, il y a des manifestations ailleurs dans le monde, moi, ça m'intéresse, j'ai pas la capacité d'organiser moi-même, c'est un peu ironique d'y penser maintenant, je dis, bon, c'est pas mon truc, mais si jamais quelqu'un organise une manifestation, ça m'intéresse de le rejoindre. Quelques jours après, je me trouve dans un groupe WhatsApp. WhatsApp, c'est magique, parce qu'on vous demande pas si vous voulez, hop, vous êtes dedans. Donc, je me trouve dans un groupe d'Israéliens qui disent, bon, faisons quelque chose. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis dans un croisement entre les institutions européennes et les manifestants en Israël, où je suis presque le seul, parce que je ne connais pas d'autres Israéliens. C'est juste le hasard, mais je ne connais pas d'autres Israéliens dans les institutions, c'est très rare. C'est bizarre d'ailleurs, parce que les Israéliens avec un passeport européen qu'au moins peuvent faire, mais il n'y en a presque pas. Et surtout pas dans le niveau des cabinets politiques. Donc là, je me dis, bon, j'ai une responsabilité là. Les choses que je fais pas moi-même, il y a personne d'autre à faire. C'est pas parce que je suis si génial, c'est juste parce que je connais ces gens. Mm-hmm. Et donc là, je passe mon temps à aller frapper sur deux portes, des commissaires, des leaders politiques, au Parlement, à l'action extérieure, et leur dire, je comprends pas, hein. Vous êtes en train de juste ignorer tout ce qui se passe là-bas, vous dites rien, même si vous vous considérez pro-israélien, proche à Israël, etc., mais vous comprenez pas que c'est la fin. Donc, j'entends des voix des gens de l'action extérieure qui me disent « Oui, bon, bah, le prochain gouvernement va juste changer ses lois. » Je dis « Non, vous comprenez pas. Il n'y aura pas un prochain gouvernement. Si cette réforme passe maintenant, il n'y aura plus d'élections libres en Israël. Ce qui se passe est tellement grave et vous êtes en train de juste… Vous dormez tous. » Ça a pris pas mal de temps à faire la pédagogie et leur faire comprendre. Évidemment, on n'est pas anti-israélien. On a fait signer une pétition qui dit à l'Union européenne, on est pro-israélien. Et si, même si vous considérez que ce qui se passe en Israël maintenant, c'est des affaires locales, etc., ça vous concerne pas, bah, il y a aussi les relations entre Israël et l'Europe. Ça vous concerne? Bon, le début de cet accord, ce qu'on appelle l'Association Agreement, première page dit que cet accord est basé sur des valeurs démocratiques communes. Et donc, si vous considérez que ce qui se passe en Israël, ça vous concerne pas, au moins les relations. Parce que nous, on risque de se réveiller un jour et sans démocratie et sans ces relations avec l'Union européenne qui sont tellement cruciales pour nous. Donc, il faut absolument que vous vous réveillez.
Dan, pour terminer cet entretien, je voudrais aussi rappeler aux auditeurs qu'une carte blanche a été publiée dans plusieurs grands médias internationaux, dans plusieurs pays, dont la Belgique, sous le titre « La contestation israélienne, source d'inspiration pour l'Europe ». Donc avec des grandes signatures comme par exemple la journaliste Anne Sinclair et beaucoup d'autres personnes, l'écrivain israélien Dan Grossman, Yuval Noah Harari.
Alors non, je vous corrige. Donc cette tribune n'a pas été signée par des Israéliens. Elle a été signée par des grands noms comme Anne Sinclair justement, donc que des Européens. Qui dit en gros, nous on soutient le force pro-démocratique en Israël pour deux raisons principales. La première, c'est par solidarité, parce qu'ils ont raison et ils ont de bons côtés de l'histoire. Parce qu'il faut sauver la démocratie en Israël comme ailleurs. C'est important. Et la deuxième raison, ils disaient, ils sont nos soldats. Parce qu'ils se battent, ils sont dans le front line. ils sont en train de se battre pour la démocratie et demain c'est nous. Et ce qui se passe aujourd'hui en Israël, c'est devenu un laboratoire de la démocratie. Hier, c'était le laboratoire des vaccins Covid. Aujourd'hui, c'est le laboratoire de la démocratie. Et les résultats de ce qui se passe en Israël ont un impact direct à ce qui se passe ici. Et c'est pour ça qu'ils ils ont pris la position de soutenir l'organisation Democracy, qui est à la fin juste un réseau pour mettre en contact les militants de la démocratie dans des pays différents. Ces trois pays et autres, parce qu'aujourd'hui, c'était sporadique, il y avait un Polonais qui vient en Israël, qui donne un discours, etc. Et nous, on se dit, non, c'est important que ces gens-là se connaissent d'une façon plus structurelle, que quelques fois par an, ils se réunissent. Là, on fera la première conférence ici à Bruxelles, mais la prochaine fois, ça sera ailleurs. Qu'ils se voient, qu'ils se fassent connaissance, qu'ils se sympathisent et qu'ils échangent aussi entre les conférences pour que si demain, quelque chose se passe, je sais qu'il faut terminer, mais je vous raconte juste une anecdote pour finir. Vous voyez les images des manifestations à Tel Aviv qu'on voit d'un drone de là-haut. Chaque semaine, je ne savais pas, il y a un énorme panneau que les gens portent sur leur tête et ça, ils prennent la photo de là-haut. Et chaque semaine, ils changent le message. Et là, grâce à notre... c'est pas seulement Democracy, mais cette idée, cette narrative de réunir des Hongrois, des Polonais, des Israéliens. Là, je suis en train de parler avec eux, de mettre un grand message en polonais à Tel Aviv, dans ces manifestations, la veille des élections en Pologne, et le message sera écrit en polonais, un message qui dit « L'État des droits nous réunit ». Et ça, pour moi, c'est tellement fort. Là, quand j'ai vu ce message, que ça avance, j'étais en larmes. Là, j'ai dit, voilà, on a réussi. Arrêtons de parler de la Pologne comme un cas d'une perte, fin du monde, nous, on ne sera pas comme eux, des lâches, et commençons de réaliser que là-bas aussi, il y a des gens tellement courageux. Et l'État déjà, là-bas, c'est beaucoup plus difficile de se battre déjà aujourd'hui, et ils méritent notre soutien. C'est le même combat, c'est les mêmes valeurs, et il faut le faire ensemble.
Dan Sobovich, merci infiniment et je rappelle qu'on donne rendez-vous, on fixe rendez-vous donc
1645 place de Luxembourg à Bruxelles. Voilà. Venez nombreux. Si vous me permettez juste l'instruction, tous les drapeaux nationaux belges, hongrois, israéliens sont les bienvenus. Les drapeaux arc-en-ciel, tout drapeau qui représente la démocratie. Ce qu'on ne va pas tolérer, c'est les incitations à la haine et les incitations à boycotter ou sanctionner des pays. Donc j'ai dit déjà à ceux qui planifient de venir nous provoquer avec des pancartes BDS contre Israël, ça ne sera pas toléré et ça sera... Ils sont les bienvenus à manifester ailleurs, mais pas parmi nous. Donc ça, c'est très important. Il y aura même où laisser les panneaux et les drapeaux avant de rentrer dans le Parlement. Mais ça, c'est très, très important. Il n'y aura pas des messages à sanctionner ou boycotter Israël parmi nous. Si ça arrive, la police saura quoi faire.
Merci Dan Sobovich.
Merci Aviva, avec
plaisir. Et sachez que vous serez toujours le bienvenu sur le plateau de Radio Judaïka.
Attention, je m'en vais.
Chers auditeurs, on se retrouve dans quelques minutes après cela.
Wir singen Kinderlacher, sehen wir zusammen. Ein Gindel, ein Freiliches, mit Wörterlach zu skrammen. Die Mame kocht ein Lokschelsup mit Kasche in mit Knädlach. Kinder jontef Pirin, weil wir spielen sich in Dreidlach. Schiribim, schiribom, schiribim, bom, 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 bom. Schiribim, schiribom, schiribim, bom, 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 bom. Chiri biri 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 bim bom bom. Chiri biri 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 bim chiri bim bom 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 bom. Schön wie die Levone, lichtig wie die Sterne, von Himmel am Atone, bist du mir zugeschickt. Mein Glück hab ich gefunden, wenn ich hab dir gewinnen. Du scheiß wie tausend Sinnen, hast du mein Herz verglickt. Deine Zähnderlach weiß wie Perlach, mit deine schönen Augen, deine Händerlach, deine Herrlach, hast mich zugezeugen. Schein wie die Levone, lichtig wie die Stern, von Himmel am Atone, hast du mir sie geschickt. Mädel, Mädel, will bei dir fragen, wo's kann wachsen, wachsen Regen, wo's kann brennen und nicht aufhören, wo's kann wecken, weinen und tränen. Tumbalalai, 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 katu.
tumbalalai, tumbalalai, tumbalalaika. Spielbalalaika, 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 freilich soll sein. Bei mir bist du schön, bei mir hast du heim, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Bei mir bist du gut, bei mir hast du Hitz, bei mir bist du noch teurer von Geld. Viel schöne Mädel, ihr wollt schön nehmen mich, noch finden sie alle euch geklebt dich. Bei mir bist du schön, bei mir hast du Heim, bei mir bist du die schönste auf der Welt. Es ist zu mir gekommen, a Cousine, schön wie Gold, sie gewend die Grine. Bäckerlach wie Reute Pomeranzen, Fieserlach, was beten sich zum Tanzen. Bäckerlach wie Reute Pomeranzen, Fieserlach, was beten sich zum Tanzen. Heint das sich begegen, mein Cousine, frag sie, wo machst du grine? Entert sie mir mit der Creme Mine. Asa Maslow, Kolumbus es Medine. Entert sie mir mit der Creme Mine. Asa Maslow, Kolumbus es Medine. Oi, 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 Jossel, 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 Jossel. Du schreist, geht hier, a Joyce von dir. Oi, 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 Jossel, 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 Jossel. Sie holt jede Nacht nur von dir. Oi, 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 Jossel, 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 Jossel. Dein Malke sitzt nur und wart auf dir. Sie holt jede Nacht und von dir nur sie tracht, sie bängt und krapiert nur von dir. Sie holt jede Nacht und von dir nur sie tracht, sie bängt und krapiert nur von dir. Am Mulle sind sie Rebinju gegangen unterwegs. Mit am Mulle tun sie fjuchen und gießen nach Regen. Schrei der Rebbe zu dich, Mare, herauf gießen Wasser. Zinnen alech sie dem Trinken a Reus, der Rebbe sa Reus a Nase. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribiri, biri, 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 bim, bom, bom. Chiribiri, biri, 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 bim, chiribim, bom, 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 bom.
אני הולך אלייך כל ימי, אני הולך אלייך מסונבר, אבנים פוצעות את כפותיי, אבל אני איני מרגיש דבר.
אני חוזר בארץ לא זרועה, מושיט ידי לנטוף את שערך. הנני כאן, אך כמו יונה פצועה, אני נופל תמיד מול שערך.
הנני כאן, כמו ציפורים חגות, הנני כאן, מביטין הגדול. הנני כאן, כמו אבן בגדר, כמו סלע, כמו באר. אשר תמיד חוזר, חוזר.
אני חוזר באלף גלגול, אני מזיר מלך וגבזן, ובלילות בבכות השועלים. אני חולם וארבח בו בזמן.
כמו הבור להלך במדבר צריכות רכות נשקו אותך פנים שקיעות כדות נשקו אותך צוואר
כך ראיתיך יושבת
Vous aurez peut-être reconnu Yoram Gaon. La plus vieille Bible du monde va être exposée en Israël. Le musée ANU à Tel Aviv va donc exposer le plus vieux livre du Tanakh au monde. Cette Bible a été achetée aux enchères au mois de mai dernier par Alfred Moses pour 38,1 millions de dollars et il a donc décidé d'en faire don au musée. Monsieur Moses était ambassadeur des États-Unis en Roumanie et il est le principal donateur du musée ANU. Le livre faisait partie en fait d'une collection privée et son existence n'était connue que par très peu de monde jusqu'au début de cette année. Jacques Safra, l'homme d'affaires qui le détenait, a alors décidé de le mettre en vente. La Bible, écrite sur une peau de mouton, vient de la région syrienne et date de la fin du 9e siècle de notre ère. Après avoir survécu à l'occupation mongole, sa trace a été perdue pendant 600 ans avant d'être retrouvée à Londres. Puis elle est passée par Genève, dans la bibliothèque privée de David Salima Sasson, un des plus grands collectionneurs d'écrits juifs. Le livre porte d'ailleurs son nom depuis Codex Sasson. En 1942, M. Sasson est décédé et ses descendants ont voulu savoir sa valeur et l'ont donc placé sur le marché dans les années 70. Le livre a été soigneusement emballé pour son trajet jusqu'en Israël et il doit atterrir à l'aéroport Ben Gurion avant d'être transféré au musée ANU. Madame Irina Nefslin, la présidente du conseil d'administration du musée ANU, considère ce livre comme notre Joconde. Il était important pour nous de l'avoir, pour l'exposer au musée et pour qu'il soit en Israël. Cela aurait été une catastrophe s'il était resté en dehors de la maison. Ce livre prouve non seulement que nous avons été préservés en tant que peuple, mais aussi que nous nous sommes développés, que nous avons créé un État prospère. Il montre à quel point notre histoire n'est pas terminée et ne fait que commencer. Fin de citation. Le livre sera donc exposé dès les prochaines semaines au musée ANU. La conservatrice du musée, Madame Orit Shaham-Gover, a déclaré « Il est en très bon état. Quand on prend en compte le périple qu'il a traversé, c'est une boucle qui se ferme puisque le livre est sorti du cœur de la culture juive, a passé des pérégrinations avant de revenir à l'endroit qui en fera un bien précieux du peuple juif. Il ne sera plus un simple article de collection dans un endroit fermé, mais accessible au public. » Le ministre israélien des télécommunications, M. Shlomo Kari, a atterri en Arabie Saoudite à la tête d'une délégation officielle de tout de même 14 personnes pour un congrès international de la Poste. Parmi les membres de la délégation se trouve le député David Bitan, président de la commission économie de la Knesset, mais aussi le directeur et le directeur adjoint du ministère des télécommunications, le directeur des cabinets, le porte-parole du ministre, la directrice des relations extérieures, des représentants de la direction de la Poste et du ministère des Affaires étrangères. Le ministre Kari a pris la parole durant le congrès et rencontré entre autres l'ambassadeur américain en Arabie Saoudite et le ministre turc des télécommunications. Le ministre a également été invité dans la souka du blogueur saoudien pro-israélien Mohamed Saout. Mardi dernier, le ministre Kari a donc fait la prière de Shacharit de Chol HaMoed Sukkot à Riyadh en Arabie Saoudite émouvant, la prière avec un Sefer Torah et les quatre espèces en Arabie Saoudite, a écrit le ministre. Ici aussi, à Riyad, nous avons eu le mérite de prier avec les fenêtres ouvertes en direction de Jérusalem. Fin de citation. Je voudrais vous parler à présent d'un livre. Le nom est célèbre, mais les années passant, les détails de sa biographie s'effacent. Qui était en fait Simon Wiesenthal ? Ce livre de mémoire, réédité dans un petit format, apporte toutes les réponses. Son enfance en Galice, dans une région d'Espagne réputée pour ses rabbins miraculeux, sa survie après la déportation, son engagement à la poursuite des criminels nazis, avec toujours cet idéal de justice qu'il ne faut jamais confondre avec la vengeance. Le titre de l'ouvrage « Justice n'est pas vengeance » par Simon Wiesenthal dans la collection Arion Robert Laffont, et je vous le conseille.
Baruch ata Adonai,
Baruch ata Adonai,
Baruch abba Yerushalayim,
Baruch
ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim,
Baruch abba Yerushalayim. Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim, Baruch Ata Adonai, Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Yahakirati
ישראל יקירתי. ישראל יקירתי.
C'était Alpha Blondie avec Jérusalem, et précisément à propos de la capitale israélienne. Chaque année, Jérusalem s'anime de couleurs, de musique et de diversité culturelle à l'occasion de la fameuse marche de Jérusalem. Cette tradition bien aimée, qui a débuté en 1955, rassemble des dizaines de milliers de personnes en provenance d'Israël et de l'étranger pour célébrer la beauté de cette ville ancienne et historique. Organisée par la municipalité de Jérusalem, cette année marque la 68e édition de cet événement spectaculaire. Les festivités débutent par une promenade matinale offrant 3 parcours de difficultés physiques variables et pour les marcheurs expérimentés, la route A de 10 km qui commence dans le quartier de Guilo promet une expérience enrichissante. Environ 1500 personnes sont attendues pour parcourir ce trajet. Quant à la route B qui s'étend sur environ 8 km à partir du parc Nahal Refaim, elle attire quant à elle près de 2000 participants. Cependant, c'est la route C qui devrait voler la vedette avec environ 8000 personnes commençant à la place Safra pour ceux qui connaissent et couvrant environ 5 km au total. Les 3 parcours se rejoindront ensuite au parc Sacher, transformant cet endroit emblématique en un lieu de festivités qui se prolongeront jusqu'à l'après-midi. Les animations prévues comprennent des spectacles de cirque, un spectacle de magie et une prestation de la troupe de danse israélienne Mayumana. L'apothéose de la journée, c'est le concert de Doudou Aaron, un auteur, compositeur, interprète populaire qui se tient au parc Sacher. Ensuite, le défilé lui-même débute dans la rue Betzalel, serpentant à travers le centre-ville via les rues Hillel Ben Sira et Roi David pour finalement s'achever à la première station prévue vers 17h30. Cependant, la marche de Jérusalem est bien plus qu'une simple célébration annuelle. Son histoire remonte en fait en 1955, lorsque 200 soldats de Tsahal et 70 civils ont entrepris une marche de 4 jours vers Jérusalem. En seulement 2 ans, l'événement a pris de l'ampleur, avec 5000 soldats marchant en 1957. Et en 1966, la marche de Jérusalem avait déjà attiré 15 000 participants, devenant ainsi un événement de masse marquant de l'année. Une particularité de la marche de Jérusalem réside dans sa diversité religieuse. En effet, chaque année, un nombre tout à fait considérable de chrétiens évangéliques du monde entier se joignent à cet événement. La plupart d'entre eux sont associés à l'ambassade chrétienne internationale de Jérusalem, l'ICEJ, une organisation évangélique fondée en 1980. Depuis lors, l'ICEJ invite chaque année les chrétiens à venir en Israël pour célébrer la fête des tabernacles, également connue sous le nom de Soukhot. En 2023, 1000 pèlerins chrétiens ont répondu à cet appel, dont 400 ont participé à la marche de Jérusalem. Aujourd'hui, l'ICEJ propose une expérience complète aux pèlerins pendant la semaine de Soukhot, incluant la possibilité de participer à la marche de Jérusalem. Cette opportunité unique permet aux visiteurs de vivre pleinement la richesse culturelle et spirituelle de Jérusalem, un voyage qui a un prix de 5 450 $ pour rejoindre les célébrations de la marche en Galilée, donc à Jérusalem. Cette initiative illustre parfaitement la façon dont la marche de Jérusalem transcende les frontières religieuses pour devenir un événement véritablement international et interconfessionnel. La 68e marche de Jérusalem promet d'être une journée mémorable, rassemblant des personnes du monde entier pour célébrer la beauté de cette ville historique et la diversité de sa culture. C'est un événement qui continue de témoigner de l'importance de Jérusalem pour de nombreuses communautés religieuses et culturelles à travers le monde, un symbole d'unité et de partage dans une ville chargée d'histoire et de spiritualité.
De temps en temps, comme un enfant, ma pensée te dessine Yerushalayim. De loin en loin, tu n'es plus qu'un rêve qui tombe en ruine. Yerushalayim, elle sait les migrants dont les yeux brûlants s'ouvrent avec était venu, m'invite des pieds nus à toi, Yerushalayim. Pour me garder, tu as cloué l'amour dans ma poitrine, Yerushalayim. Où sont mes joies? N'y a-t-il pas de bonheur sans épines? Yerushalayim, tout s'est acharné pour nous déchirer et le brouillard de nos pleurs a troublé l'azur. Elle rend un mur entre son cœur et mon cœur. Mais j'ai en moi l'espoir toutefois que l'amour encore renaisse et vive encore pour moi, Yerushalayim.
Yerushalayim, c'était bien sûr Charles Aznavour. Y aura-t-il bientôt une viande sans abattage rituel? C'est en tout cas le pari fou d'une entreprise israélienne. Ainsi, le Times of Israel nous apprend que la société Aleph Farms aurait en effet déjà déposé des demandes d'autorisation de commercialisation de viande artificielle auprès des États-Unis, de Singapour et tout récemment de la Suisse. Une commercialisation qui ne devrait pas arriver avant 2030 avec un prix de vente quelque peu élevé dans un premier temps qui devrait rapidement se démocratiser dans les grandes surfaces, nous informe le Times of Israel. Pour rappel, ces morceaux de viande sont fabriqués à partir d'une cellule souche prélevée sur un ovaire de vache fécondée. La culture se fait ensuite en éprouvette, en laboratoire, et ne produit donc à aucun moment un animal complet, mais bien une masse de viande. Si le processus a de quoi faire sourire ou frémir, les questions de cacheroute sont déjà sérieusement posées. Ainsi, le grand rabbin Ashkenaz d'Israël, David Lowe, se serait déjà prononcé d'après I24 News et aurait affirmé qu'en l'état, on pouvait parfaitement considérer que ce type d'aliment était non seulement cachère, mais aussi parvé, c'est-à-dire ni lacté ni carné. Pour le grand rabbin, cela s'apparente plutôt à un végétal, et pour cause, la viande n'est pas prélevée sur un animal, aucun animal n'est tué ou blessé pour l'obtenir. L'usine d'Aleph Farms, leader du secteur, se situe dans la ville de Rehovot et les premières pièces de viande devraient arriver dans les magasins et restaurants israéliens courant 2024. Alors question, de quoi simplifier quelque peu la cacheroute? La question est donc posée.
Thank you.
le Breeder avec le merveilleux Yitzhak Perlman au violon. La Maison Blanche a officiellement annoncé l'ouverture d'une souka présidentielle à l'entrée de la résidence du président Joe Biden à la Maison Blanche. Selon la halakha, la souka est une structure constituée de 2,5, 3 ou 4 murs et d'un toit en matériaux organiques qui ont été déconnectés du sol. Elle doit avoir au moins 1 mètre de haut et son toit donner au moins en partie sur le ciel. Seule la partie donnant sur le ciel est conforme aux prescriptions religieuses. Une souka peut être construite sur le sol, sur un porche ouvert ou un balcon, ce qui soulève des questions juridiques lorsque cela a lieu dans une copropriété. Des soukottes portables ont donc été inventées pour ceux qui ne possèdent pas la place suffisante ou sont en voyage afin de pouvoir y consommer leur repas. Le conseiller du roi du Maroc a été décoré par le président de l'État d'Israël. Ce dernier a donc reçu la médaille d'honneur du président Herzog, la plus haute distinction civile de l'État d'Israël, et cela à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance. Alors, quel est le point commun entre Elie Wiesel, Henry Kissinger, Joe Biden, Zubin Mehta et André Azoulay? Ils ont tous été distingués par la médaille d'honneur présidentielle, une institution créée par le défunt Shimon Peres et reprise depuis l'an dernier par le président Herzog. Cette décoration civile est décernée à ceux qui se sont distingués par leur contribution exceptionnelle à l'État d'Israël et au peuple juif et à l'humanité. Et en ce 75e anniversaire de l'indépendance, Yitzhak Herzog a donc choisi 14 lauréats, au nombre desquels le conseiller du roi Mohamed VI du Maroc, que le chef de l'État d'Israël tenait à saluer pour son action inlassable en faveur du rayonnement du judaïsme marocain. André Azoulay, dont le nom résonne aussi en Israël pour le rôle diplomatique qu'il a joué dans le rapprochement entre le Maroc et Israël, mais aussi en d'autres temps pour la paix entre Israël et les Palestiniens. S'adressant aux lauréats de la promotion 2023 lors de la cérémonie qui s'est tenue le 6 septembre dernier à Jérusalem, le président Herzog les a remerciés d'être un rayon de lumière dans les jours difficiles où la polarisation et la division prennent tant de place. Merci de nous rappeler à tous qu'il y a une autre voie, qu'il est non seulement possible de vivre ensemble malgré la diversité, mais aussi grâce à cette diversité et d'établir une société exemplaires, diverses et communes, fondées sur les valeurs et la générosité, sur les racines du passé et les rêves de futur, pour le bien-être des habitants du pays et la prospérité de l'État d'Israël, ce qu'a donc déclaré le président de l'État d'Israël.
Mon fils, tu as mauvaise mine. Tu devrais prendre soin de toi. N'oublie jamais les vitamines. Couvre-toi bien quand il fait froid. Je sais que tu n'as plus 9 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont toujours sur le qui-vive. Les mères vives. Je crois que tu fais trop de sport. On dit que ce n'est pas très sain. C'est dangereux, tous ces efforts. En as-tu réellement besoin? Je sais que tu n'as plus 15 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont inquiètes et émotives. Les mères vives, je t'ai acheté 2 cravates. Tu as mis la bleue avec tes pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessive, l'énergie. Dans ce manteau que j'ai fait pour toi, tu serais avocat ou docteur. Tu aimes mieux faire le chanteur et me quitter pendant des mois. Je sais que tu n'as plus 30 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont douces et attentives, l'énergie. Ta femme, c'est presque une gamine. Comment peut-elle veiller sur toi? Elle sait même pas faire la cuisine. Heureusement que je suis là. Je sais, tu n'as plus 40 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles peuvent être possessives, l'énergie. Tandis que moi, je te connais, je fais les plats que tu préfères, je te tricote des cache-nez, des paires de gants, des pull-overs. Je sais, tu n'as plus 50 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont vraiment très actives, les mères. Viens mon chéri, viens mon gamin, ne crains rien, je ne pleure pas. Même quand tu ne m'appelles pas, je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais, tu n'as plus 60 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont très tendres et naïves, l'énergie. Quand ma petite mère parlait ainsi, ça me semblait insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma mère juive.
C'est donc en compagnie de Georges Moustaki et de ses mères juives que se termine cette émission Découverte. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous rappelle que vous pouvez la retrouver le dimanche en rediffusion de 18 à 19h et bien sûr quand vous le désirez en podcast. Merci à notre invité Dan Sobovitch, créateur du mouvement Demo Crisis. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver, si vous le voulez bien, vendredi prochain, même heure, même chaîne. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Chag Sameach, Hagit Shabbos.